Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. La réflexion de la science économique se concentre sur la création des richesses matérielles, un domaine où l'action n'est pas toujours la sœur du rêve, pour citer le poète. Elle participe à un désenchantement du monde, celui dont parlait Max Weber, plus douloureux encore que celui du monde physique, lugubre pour certains. Pourtant, à l'aube du troisième millénaire, parmi les dangers qui rôdent autour de notre société, celui de méconnaître son propre fonctionnement n'est pas le moindre. Pour le conjurer, nous avons besoin du regard acide du savoir économique. C'est celui d'une raison vivifiante qui alimente l'espoir salubre de mieux comprendre le monde social. Roger Guénéry, leçon inaugurale. Roger Guénéry, vous êtes titulaire au Collège de France de la chaire intitulée « Théorie économique et organisation sociale » depuis le 9 décembre 2000, date de votre leçon inaugurale. Vous êtes spécialiste de l'économie publique, notamment du calcul économique public et des questions de l'assurance sociale et de la redistribution. Vous avez, comme on dit, fait Polytechnique et les Ponts et Chaussées. Vous avez enseigné dans de nombreuses institutions prestigieuses, notamment par exemple à Harvard. Vous avez fondé et dirigé le département et laboratoire d'économie théorique et appliquée. Vous avez également été l'auteur d'un rapport commandé par Xavier Darcos sur l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée. Vous êtes couvert de distinctions, comme par exemple la médaille d'argent du CNRS, mais surtout, vous travaillez dans un domaine qui domine le monde, en quelque sorte, donc l'économie, qui apparaît aux yeux des simples mortels que nous sommes, comme le lieu même de l'aléatoire, du paradoxe, de l'antagonisme, bref, de l'insaisissable. On a surtout l'impression qu'il est par excellence d'ailleurs le lieu de toutes les utopies et de tous les dangers, mais aussi celui d'un perpétuel bavardage plein de bons sentiments. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse, Roger Guénéry, de nous expliquer un petit peu en quoi consistent exactement vos recherches ?
Oui, ben moi je suis venu effectivement par des chemins un peu détournés dans cette discipline, puisque je suis un peu le produit de ce qu'on appelait autrefois l'élitisme républicain. J'ai commencé par l'école communale et j'ai fini par les grandes écoles.
De plus en plus rare.
Oui, j'ai fait de l'économie publique parce que c'était au début, j'ai travaillé un petit peu pour le commissaire du plan. Je suis passé progressivement de quelque sorte de position dans l'administration économique, hein, dans un organisme qui dépendait du commissaire du plan qui s'appelait le CERMAP à l'époque. À la recherche, c'est-à-dire je suis passé au CNRS et dans ma transition, j'ai regardé beaucoup les problèmes d'économie publique. J'ai toujours conservé un intérêt pour l'économie publique, mais je fais de la théorie économique générale. Hein. Mon champ d'intérêt, je m'intéresse également à la macroéconomie, je m'intéresse à la monnaie, je ne m'intéresse pas uniquement à l'économie publique. Ou plutôt, mon centre d'intérêt principal il y a 25 ans. Maintenant, j'ai un peu bifurqué, donc j'ai touché à pas mal de domaines de la théorie économique en restant, puisqu'on a il y a une division du travail au sein de la discipline entre les théoriciens, les gens qui regardent les chiffres, les gens qui s'occupent de politique économique. Donc c'est un village un peu compliqué, mais dont je vous donne les grandes lignes de son fonctionnement.
D'autant plus compliqué qu'on a l'impression que multiples théories ne cessent de se confronter, de s'affronter, et qu'il est très difficile de saisir des bribes de vérité dans ce domaine.
Non, je ne crois pas qu'il faut voir les choses comme ça. Qu'il y ait des affrontements entre les explications, je m'en réjouis. Je crois que c'est une bonne chose. Ça fait partie du débat intellectuel. C'est comme ça qu'on peut essayer de progresser. Ce qui s'est passé plutôt dans les... disons, depuis que je fais de l'économie, c'est plutôt une sorte de mondialisation du savoir, en quelque sorte un étiolement des hétérodoxies, comme le marxisme qui a été, enfin la pensée marxiste sur l'économie qui s'est étiolée, et évidemment il y a un effet effondrement du mur de Berlin en 1990, etc., et une certaine uniformisation du savoir et des outils pour l'appréhender, de la conception de la profession d'économiste à travers le monde. Avec des conséquences qui sont tout à fait positives, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une production considérable de savoir, mais en même temps avec une balkanisation de ce savoir qui le rend plus difficilement utilisable pour lorsqu'on fait face aux grandes questions, aux grandes questions qui reviennent, hein, qui sont les grandes questions sur lesquelles s'est fondée la discipline, la stabilité systémique, etc., et donc qui nous sont revenues avec la crise, qui sont revenues au centre du débat.
Donc Roger Guénéry, vous êtes en train de nous dire que plus le monde s'homogénéise, plus il se fragmente également.
Oui, c'est l'homogénéisation des modes de travail, le triomphe de ce qui peut être ce qu'on peut appeler la méthodologie de la société d'économétrie, qui était très minoritaire dans les années 1930 et qui a imposé à la et qui a en fait dont le modèle qui est, on utilise des mathématiques, de la statistique, il y a une division du travail entre les gens qui font de la théorie, les gens qui regardent les chiffres, etc., les gens qui font de la politique économique. Ce modèle s'est imposé. Il était extrêmement minoritaire dans les années 30, hein, lorsqu'il a été proposé. Il s'est imposé et il est devenu dominant au niveau mondial. Maintenant, il s'est aussi transformé. Hein, lorsque vous devenez dominant, la roche tarpéienne n'est jamais très loin du Capitole, donc...
Mais on a l'impression surtout que la pensée sur l'économie ou la pensée de l'économie est toujours un peu en deçà de l'évolution des marchés, de leur rapidité, de la rapidité de l'économie. On a l'impression de vivre dans une espèce de tourbillon, de brassage extrêmement rapide de l'argent, et que la pensée... les théories et les théoriciens de l'économie sont pratiquement mis au pied du mur d'une certaine manière et obligés de penser en fonction de ce que le marché crée déjà.
On est dans un monde dont la transformation rapide est un défi, constitue un défi pour la compréhension. C'est-à-dire, des fois, ça change tellement rapidement qu'on se dit que ça change plus vite que ce qu'on est capable de maîtriser. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, si vous prenez la mondialisation financière à laquelle on est confronté, qui a commencé vers les années 80, disons, il y a 35 ans, cette mondialisation financière a changé complètement le paysage. Il y a eu affaiblissement des régulations, voire
disparition
dans de nombreux cas. Il y a une multiplication des intervenants. Il y a eu une multiplication des produits, hein, avec tous les produits dérivés, les dérivés de dérivés, etc. Et il y a eu une multiplication de la circulation des créances à travers le monde, puisque on a vraiment eu un marché, puisque les Chinois achètent du dollar américain, et qu'il y a une interconnexion entre toutes les places boursières mondiales assez instantanée. Donc tout ça a changé un petit peu la structure de ce système financier. Et d'une manière dont la profession, en général, je dirais nous, parce que je prends ma part de responsabilité, dont les économistes n'ont pas pris conscience en temps réel. Le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de le... C'est que les avertissements qui ont été prodigués avant la crise de 2008 sont assez limités. Alors, vous avez toujours les hétérodoxes qui nous avertissaient régulièrement de l'instabilité du capitalisme. Hein. C'est Marx, c'est la version moderne, Minsky, etc. Mais C'était de moins en moins appuyé. Hein. Alors là, c'est l'effet, à nouveau, chute du mur de Berlin. La critique du marché après l'effondrement du système soviétique est devenue de plus en plus difficile. L'idée que le marché a triomphé et qu'on n'a pas du tout à le remettre en question est une idée quand même assez prégnante et qui explique, et ceci explique partiellement cela.
Mais ça fait partie quand même de toute cette série d'utopies qu'on trouve évidemment dans le domaine économique. Il y a l'utopie évidemment communiste et collectiviste, mais le libéralisme c'est aussi une utopie, c'est-à-dire l'idée que le marché peut se réguler lui-même et faire le bonheur de l'humanité, en quelque sorte.
Oui, mais c'est aussi le sujet sur lequel travaillent les économistes. C'est-à-dire, c'est le savoir économique s'emploie justement à questionner ces utopies. Hein. C'est pas une science, comme je dis très souvent, c'est un savoir d'intention scientifique, c'est-à-dire... c'est pas une science parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas faire. On peut pas transposer, par exemple, l'expérience contrôlée en physique. Quand vous avez une théorie, vous faites une expérience pour voir si elle est vraie. En économie, on sait pas faire. Hein. Alors, bien sûr, il y a récurrence de faits sur lequel on met des étiquettes identiques et dont on fait l'hypothèse qu'ils reflètent des réalités suffisamment semblables pour que ça relève de la même catégorie. Mais on est dans l'histoire, hein. on n'est pas dans le monde dans lequel la récurrence des expériences permet de tester les théories, bien sûr. Donc, c'est un savoir d'intention scientifique. L'objectif de savoir, c'est bien entendu de questionner toutes ces utopies, hein. L'utopie collectiviste, l'utopie qu'on appelle libérale en français, j'aime pas trop le mot parce qu'en anglais il a un sens tout à fait différent, ou enfin assez différent.
Comment vous l'appelleriez ?
L'utopie du marché total, pro-marché, de la bienfaisance infinie du marché.
Bienfaisance infinie du marché, en effet.
Ouais. Mais ça, c'est notre métier, c'est de comprendre ce qui va bien dans le marché, ce que fait le marché, ce qui ne fait pas, comment on pourrait le contrôler, et naturellement, en contrepartie, ce que peut faire l'État, mais ce qu'il ne peut pas faire, ce qui fait mal, et comment on pourrait l'améliorer, bien sûr.
Roger Guénéry, peut-on prévoir les crises et peut-on re-réguler le système ? Et si oui, comment ?
D'une part, je crois qu'on est plus lucide, c'est-à-dire ex post. C'est plus facile qu'ex ante. Ex ante, on n'a pas été très bon. Je vous dis, les économistes n'ont pas été très bons. Il y a eu très peu d'avertissements. Hein. Je parlais des hétérodoxes, mais dans le courant dominant, le mainstream, comme on dirait en anglais, il n'y a pas eu grand monde. Hein. Je dis, on les compte sur la doigt de la main. Ceux qui avant 2005 ont dit que le système était fragile. Hein. Moi, j'en connais trois. Il y a Maurice Allais, il y a Nouriel Roubini et Rajasthan Rajan. Alors, Allais et Roubini avaient des réputations de Cassandre particulièrement fortes pour Allais, donc ils n'étaient pas écoutés. Rajan, c'est un économiste indien qui était d'ailleurs chef économiste du FMI et qui a écrit en 2005 un papier absolument prémonitoire sur la fragilité croissante du système financier, et il s'est fait renvoyer dans son coin assez rudement, mais il avait raison. Donc il y a eu une certaine faillite à la profession. Ex post, on comprend mieux pourquoi pas fonctionner, on comprend mieux pourquoi la titrisation des créances type subprime créait énormément d'obscurité, enlevait beaucoup de transparence au système. Donc il y a un certain accord, en tout cas une meilleure compréhension de ce qui allait mal. Maintenant, comment changer le système, comment le réguler ? Il n'y a pas nécessairement de consensus, puisque il n'y a pas nécessairement d'explication absolument consensuelle de tout ce qui s'est passé. Il y a des gens comme moi qui pensent que c'est parce que nos modèles font des hypothèses trop optimistes sur la capacité des gens à prévoir le monde. Il y en a d'autres qui pensent que c'est parce que les gens sont moins rationnels que ce que disent nos modèles. Et puis, tout ça, c'est en à l'arrière-plan, mais sur le champ de bataille, il y a ceux qui ont des intérêts forts et ceux qui ont des opinions fortes sur ce qu'ils pourraient faire de tel point de la régulation. C'est un sujet que je ne vais pas aborder au fond parce que je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'ai mes idées sur ce qu'il faudrait faire, mais je ne pense pas que elles sont trop provisoires pour être exposées et pour être défendues dans un débat public, bien sûr.
si on prend les trois dernières années de cours, hein, Roger Guénery, en 2010-2011, vous avez travaillé sur l'État et le marché, redistribution et assurance sociale.
Absolument.
Alors, est-ce que vous pourriez, en prenant justement ce thème, nous dire un peu quel était l'objet de ce travail ?
Ce que je fais depuis que je suis au collège correspond à l'intitulé de ma chaire. Elle s'appelle « Théorie économique et organisation sociale ». Et donc, ce que j'ai essayé de faire, qui est un peu... et qui, dans cette époque de balkanisation, est un petit peu téméraire, éventuellement, c'est de couvrir, lors de mes cours au collège, l'ensemble de la théorie économique contemporaine, telle que... et donc, j'ai, si vous prenez les faire 12e année cette année peut-être, j'ai couvert divers chapitres, hein, j'ai fait de la finance pendant 2 ans, j'ai fait de la macroéconomie, j'ai fait du commerce, et donc le cours consacré à l'État et le marché, bah c'est un des chapitres de la théorie économique, c'est un des chapitres qui m'intéressait particulièrement à titre personnel, hein, comme vous l'avez dit, j'ai fait de l'économie publique, je viens de cette frange... des économistes qui sont dans la tradition colbertiste. Moi, j'ai été éduqué un petit peu dans cette tradition. J'étais proche du commissaire Duplan. Le commissaire Duplan, c'était une idée sur la manière dont l'État pouvait servir à réguler, impulser l'économie, en quelque sorte. Donc, je me suis dit dans cette tradition colbertiste. Donc, maintenant, le cours État et le marché, la redistribution, c'est simplement tout le chapitre de la théorie économique qui concerne la réflexion sur le niveau de l'imposition, quels sont... Et à nouveau, là, j'ai fait des tours de théorie économique. J'ai terminé par un colloque sur la politique économique où j'ai fait venir des gens qui avaient des opinions différentes sur la politique économique. Mais j'ai fait un cours de théorie économique. J'ai dit, voilà ce que dit la théorie économique, comment se situe l'arbitrage redistribution richesse, quel est le bon compromis, est-ce que la redistribution compromet l'accroissement des richesses, jusqu'à quel point, quel est le bon compromis, comment la société choisit-elle entre elles. J'ai parlé évidemment des problèmes de fiscalité et des modèles qu'on a pour penser les problèmes de fiscalité, j'ai parlé des modèles de sécurité sociale, mais je n'ai pas fait de politique économique dans le cadre de ce cours, c'était pas mon objectif. Si je prends le sujet du cours de l'année que vous indiquez, c'est un sujet sur essentiellement sur la fiscalité, c'est-à-dire comment utiliser l'outil fiscal. Ce que je regardais était assez distancié. Je n'ai pas dit il faut remonter le taux d'imposition sur les hauts revenus de 47% à 53% ou etc. dans telle tranche, parce que ce n'était pas du tout mon objectif. Ce que je ne veux pas dire que ce sujet ne m'intéresse pas, mais je ne me considère pas comme devant entrer dans le débat de politique économique. Si vous voulez... Je crois que les intellectuels devraient avoir un certain devoir de réserve. J'ai, comme tout le monde, des opinions sur tous les sujets, rassurez-vous. Mais il y a des domaines sur lesquels mes opinions sont réellement fondées sur une compréhension d'une littérature spécialisée. Oui. Et puis il y a des domaines sur lesquels elles sont fondées sur ma lecture rapide du journal dans le métro le matin. Et c'est pas les mêmes choses. Donc j'ai pas envie d'être un intellectuel médiatique s'exprimant sur tous les sujets, donnant son avis sur tous les sujets.
Je comprends bien.
Je changerai peut-être, hein, dans 2-3 ans.
Je comprends bien, mais en effet, quand on traite de l'État, et des rapports entre l'État et le marché, on est quasiment au cœur de toutes les questions de l'économie les plus brûlantes. Hein.
Absolument, oui. Alors, je peux vous dire, par exemple, si vous aimez les questions brûlantes, qu'à l'issue de ce cours, j'ai fait un colloque sur la fiscalité, où j'ai fait venir des gens comme Thomas Piketty, qui est connu pour ses positions. J'ai fait venir également des gens qui venaient d'Angleterre et qui ont donné un compte-rendu de ce qu'on appelle le rapport Merlis, qui est le plus grand travail sur la fiscalité qu'on ait fait dans les 15 dernières années dans le monde. Et il y a eu un débat qui était un débat de politique économique.
Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce rapport que nous ne connaissons pas, nous autres profanes,
hein? Oui, le rapport Merlis, les Anglais demandent régulièrement à des économistes connus de faire des rapports sur des grands sujets comme la fiscalité. Alors, Jim Merlis, qui est par ailleurs, vous avez peut-être... Je ne sais pas si vous connaissez son nom, mais enfin, c'est un prix Nobel d'économie. C'est un Britannique que je connais bien, c'est un ami d'ailleurs. Et on lui a demandé de présider un groupe de travail. Et il y a une quinzaine de, je ne sais pas exactement, de personnes qui ont travaillé pendant, je ne sais plus si c'est un an ou un an et demi, qui ont sollicité vraiment des gens partout dans le monde et qui ont fait un rapport dans lequel ils discutent tous les aspects de la fiscalité. Ils donnent leur opinion sur chacune de la fiscalité de l'épargne, la fiscalité du patrimoine.
Très technique.
C'était technique. C'est censé être alimenté par par le savoir économique. Hein. Alors le savoir économique théorique, comme celui que moi je présente dans mon cours, ou le savoir appliqué, qui est lié à toutes les. Il y a énormément d'études empiriques hein, sur les effets de l'impôt, sur l'offre de travail, etc. Donc c'est un rapport qui rassemblait beaucoup de savoir. Sur la fiscalité de l'épargne, il avait des conclusions assez différentes de celles qu'avaient d'autres, dont j'ai éventuellement cité le nom. Et il y a eu un débat, il y a eu un débat. Donc moi, je pense que là, je suis dans mon rôle en initiant un débat sur un sujet important entre des gens qui ont des opinions différentes, mais qui sont également fondés. Enfin, qui sont fondés par un vrai savoir. Moi, mon rôle, je le conçois comme ça. C'est-à-dire, je fais de la théorie économique et sur les problèmes de politique économique, j'essaie de mettre en face les gens qui ont des choses à dire et qui sont compétents.
On va continuer parce que j'ai prélevé les trois derniers cours pour qu'on puisse éclairer, disons, un peu les questions que vous agitez au Collège de France. Donc, 2011-2012, votre cours s'intitulait « Turbulence dans l'économie entre histoire et théorie ».
Oui, le cours 2011-2012 était un peu en réponse à l'actualité, puisque je reprenais des sujets que j'avais déjà abordés dans les cours antérieurs, par exemple sur la macroéconomie, en les remettant en perspective de la crise, c'est-à-dire en se demandant qu'est-ce qui ne va pas dans le savoir économique, il y a une crise économique, est-ce qu'il y a une crise de la théorie, quelle est la nature de cette crise, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Je crois que dans l'économie, il y a deux choses qu'on ne sait pas très bien, difficilement prédictibles et dans lesquelles on est assez mauvais. Je veux dire, nous, les économistes comme profession, je suis solidaire. C'est les phénomènes de type avalanche et les phénomènes tout à fait contraires de type mouvement des plaques tectoniques. Avalanche, vous savez ce que c'est qu'une avalanche, hein, que les guides de haute montagne, en général, flairent le danger, mais ils ne savent pas le lieu ou l'heure où aura lieu l'avalanche, sauf à la déclencher eux-mêmes. L'image de l'avalanche convient très bien à ce qu'on appelle les bulles. Hein, la bulle immobilière des subprimes, c'est une bulle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se construit,
qui explose,
y a gonflement et qui à un moment éclate.
Oui.
Alors on n'est pas très bon pour prévoir les bulles. Alors pour prévoir l'éclatement des bulles, il y a évidemment des raisons. D'une part, c'est parce que c'est extrêmement difficile. Parce que quand vous êtes dans une bulle, il ne suffit pas de savoir que vous êtes dans une bulle pour qu'elle disparaisse. Hein. J'étais au moment de la bulle Internet, j'étais en Californie. Dans les dîners en ville avec mes amis économistes, les gens se gaussaient de la valeur atteinte par certaines actions de sociétés innovantes. Il n'y avait pas de doute que tout le monde pensait qu'il y avait une bulle, ça n'empêchait pas la bulle de durer. Et pourquoi une bulle ? C'est quelque chose, il faut expliquer les croyances des gens, il faut expliquer les croyances sur les croyances, les croyances sur les croyances sur les croyances. Je pense que, j'ai essayé d'expliquer ça, j'ai dit dans quelle mesure, quelles étaient les théories des bulles qu'on avait, et en quel sens elles n'étaient pas satisfaisantes, mais je n'ai malheureusement pas à proposer une que je jugeais plus satisfaisante. Elles sont pas satisfaisantes parce qu'à nouveau, la manière dont nos théories tracent, coupe le nœud gordien des entrelacs de croyances qu'il y a derrière une bulle est une manière trop simpliste. C'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle dont je parlais, dont je suis un des critiques. Mais en même temps, il y a dans les bulles une sorte d'imprévisibilité constitutive. On n'aura jamais de théorie qui pourra dire la bulle éclatera dans 3 semaines et c'est une prédiction crédible. Parce que s'il y avait une théorie comme ça, la bulle éclaterait immédiatement et donc la théorie serait fausse.
D'un autre côté, quand vous dites que c'est un agrégat de croyances et...
Oui.
Au fond...
C'est fascinant, ça, d'essayer de comprendre ça.
Oui, c'est fascinant.
C'est
et en même
métier.
Temps, oui, en même temps, c'est très... C'est inquiétant aussi sur l'état de l'espèce humaine, enfin. Ça en dit long sur l'espèce.
Non, parce que c'est pas, ça n'est pas long sur l'espèce, ça descend long sur ce qu'est le monde social. Le monde social a une grande différence avec le monde physique, c'est que jusqu'à nouvel ordre, mais j'ai posé la question souvent aux physiciens, et je crois que ça n'a pas changé, hein, les atomes n'ont pas d'opinion, ne se décident pas aujourd'hui en fonction de l'opinion qu'ils se font de l'endroit où ils seront demain. Le futur est complètement engendré par le passé. Dans le monde social, c'est différent. Ce que font les gens aujourd'hui dépend beaucoup de l'idée qu'ils se font de ce qui va se passer demain. Donc il y a une interaction entre les représentations du monde et les réalisations. Et c'est ça qui rend l'essence sociale fondamentalement différente. Enfin, j'ai aussi parlé de l'impossibilité de faire des expériences contrôlées, bien entendu, mais il y a une différence fondamentale. Toutes les sciences sociales sont confrontées à ce problème, naturellement. Et toutes résolvent ce problème de manière différente. La sociologie ne fait pas comme l'économie, etc. Donc on est au cœur des difficultés de la compréhension du monde social.
Mais je voudrais qu'on continue, si vous voulez bien, Roger Guénery, sur le cours 2012-2013, donc le cours de cette année, la théorie économique et les grands problèmes contemporains, quelques coups de projecteur. La théorie économique, d'abord, vous employez un singulier, c'est quoi la théorie économique? Les grands problèmes contemporains, comment est-ce que vous les désignez? Quels sont vos diagnostics sur ces questions?
Oui, mais je vais vous répondre. Je suis en train de finaliser le programme en plus.
Très bien. On contente tout à fait.
Et tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de trouver quelqu'un pour un des séminaires. Donc, Alors, la théorie économique, vous pouvez mettre les théories économiques. Je prends acte de l'uniformisation qui va avec la mondialisation de la pensée économique. Moi, je souhaite assez profondément qu'il y ait non pas un marché concurrentiel des connaissances, je préférerais qu'il y ait un oligopole de production des connaissances, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui aient des idées différentes qui élabore des visions du monde différentes que l'on va confronter aux faits et puis que le meilleur gagne. Donc je dis la théorie économique ou les théories économiques, enfin quelles sont les questions, pour les grandes questions économiques contemporaines. Ben, j'en prends, à vrai dire, c'est déjà le sujet de mon cours de l'an dernier. J'ai pris une des grandes questions économiques contemporaines, ah oui, qui était l'instabilité du système, vieille question hein, par ailleurs. Tout le savoir économique du 19e siècle s'est bâti autour de controverses sur la stabilité systémique. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est un sujet qui revient. Et cette année, bah, je vais traiter d'abord des problèmes climatiques. Alors ça, c'est un chapitre de ma recherche et de mes intérêts, enfin l'intervention de politique économique, puisque j'ai commencé par faire un rapport pour le Premier ministre il y a quelques temps là-dessus. Et je viens de sortir, alors je vous fais une publicité gratuite, je viens de sortir un livre avec Nicolas Stern qui s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques ».
Ah, très bien.
Qui est sorti en octobre.
Dans quelle maison d'édition?
Édition Le Pommier. Donc c'est un sujet important, donc c'est un des sujets où je vais raconter un peu la nature des problèmes climatiques, les problèmes économiques qu'ils posent, et ce que disent nos théories, et ce qu'elles nous permettent de comprendre, ce qu'elles ne nous permettent pas de bien comprendre, là où il y a des... etc. Deuxième sujet dont je vais traiter, c'est la mondialisation des échanges, avec un appendice sur les migrations, sujet difficile et chaud aussi. Et je vais raconter un peu ce qui se passe dans le monde avec la seconde mondialisation, quelle mesure elle diffère de la première mondialisation.
Et, c'est quoi la seconde mondialisation, pardon?
Alors, la première mondialisation, alors il y a... il n'y a pas nécessairement un accord universel sur le vocabulaire. Il y a une première mondialisation qui a commencé, on l'a souvent daté vers les années 1820 jusqu'à 1910, quoi. On fait souvent dater le début de 1846, qui est la prorogation.
Donc on est dans la seconde mondialisation.
On est dans la seconde mondialisation. C'est pas, avant, il y a eu des choses, mais qui n'étaient pas de la mondialisation. Il y a eu l'âge de la découverte, Christophe Colomb, l'âge du commerce. Il y a eu du commerce, mais il n'y avait pas mondialisation.
Du commerce international. Hein.
Il y a eu du commerce international avant le 19e siècle, mais... il n'y avait pas tendance à la convergence des prix. La mondialisation du 19e siècle, c'est que le prix du blé s'est mis à devenir le même dans beaucoup d'endroits dans le monde, à Londres comme à Odessa, etc. Il y a eu une convergence des prix des biens échangés, qui étaient souvent des biens primaires, des biens agricoles, mais aussi des biens manufacturés. Ça, c'est la première mondialisation. Elle s'est terminée un peu après 1900. D'ailleurs, de façon partiellement endogène. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement dans certains certains pays, il y a eu un mouvement protectionniste qui est revenu sur les accords de libre-échange. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le prêt. Donc, il y a eu une première mondialisation.
C'est très intéressant, en effet.
Il y a une deuxième mondialisation, et j'essaie de dire, ben voilà, c'est la première mondialisation, on a compris ce qui s'était passé 20 ans après que ce soit terminé. Est-ce que ce qu'on a compris là est utile pour comprendre la deuxième mondialisation? Donc, je vais regarder un peu ce que dit les théories des commerces internationales, et ce en quoi je les trouve éclairantes, et ce en quoi je les trouve pas satisfaisantes, ce en quoi elles n'éclairent que qu'imparfaitement.
Et vous essayez en quelque sorte de penser en temps utile.
Oui, mais alors là, on est dans les deux. Le problème des mondialisations, on est dans la deuxième catégorie de phénomènes qu'on ne sait pas prévoir. C'est le mouvement des plaques tectoniques.
Alors,
la première mondialisation est un exemple parfait. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui a fonctionné sur 75 ans. Ça s'est exacerbé à partir de 1860 jusqu'à 1900. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a eu beaucoup d'effets sur la distribution des revenus, sur la croissance dans beaucoup de parties du monde. C'est-à-dire que. Et ça a eu des effets très variés selon les pays, hein, selon l'avantage comparé, comme disait Ricardo, des uns et des autres. Mais c'est des mouvements très lents. Il s'est passé des choses qui, sur 70 ans, sont évidemment extraordinairement notables. Hein, par exemple, la rente foncière réelle. C'est-à-dire pondéré par des indices de prix, était multiplié par 5 en Australie sur la période et divisé par 2 en Angleterre. Mmh. Ce qui veut dire, et ça c'est vraiment lié au commerce agricole, au commerce sur les blés, etc. Il s'est passé des choses, mais c'est des mouvements très lents. Si vous regardez, je crains que les économistes qui vivaient à cette époque n'en ont pas beaucoup parlé. Ils en ont un peu parlé, mais soit pour en dire beaucoup de bien, soit pour ne pas s'en inquiéter. Mais au fond, il s'est passé des choses qu'on s'est mis à comprendre après la bataille. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de comprendre le mouvement des plaques tectoniques. Ça va très doucement. C'est pour ça que j'ai pris l'image d'un côté l'avalanche, de l'autre côté les plaques tectoniques. Là, on est dans les plaques tectoniques. Dans la deuxième mondialisation, c'est la même chose. Les plaques tectoniques, il y a des forces puissantes à l'œuvre, mais qui ne sont en mouvement, même en mouvement lent. Et donc, qu'il est difficile d'apprécier, qu'il est difficile de comprendre lorsqu'on est en situation comme nous le sommes tous. Alors, j'ai pas terminé parce que ça, c'est mon deuxième sujet. Alors, mon troisième, ça s'intitule Entre PIB et bonheur. C'est la réflexion sur les limites de la mesure du bien-être, hein, et les relations avec le.
Mais ça, c'est fondamental aussi.
C'est fondamental, oui. Donc, c'est assez associé à la. À toute une série de travaux. Il y a eu la commission Stiglitz-Sen, j'étais membre, qui a rendu un rapport, etc. Donc, je raconterai un peu quelles sont les problématiques de cette réflexion.
Juste, vous pouvez nous en donner quelques
directions. Première chose, sur quoi sont fondées nos comptabilités nationales qui mesurent la richesse, hein, on mesure la richesse par le produit intérieur brut, par le revenu distribuable. Quelles sont la justification, quelles sont les limites de cette justification, quels sont les problèmes des comptabilités nationales traditionnelles. Et puis ensuite, toutes les questions qui ont été posées récemment, quelle relation il y a entre le bien-être matériel et le bien-être tout court. Il y a toute une série de réflexions qui vont dans beaucoup de directions, qui s'efforcent d'établir des corrélations entre les variables économiquement pertinentes et les réponses des gens à la question. Par exemple, hein, je prends un exemple, la question, est-ce que combien vous êtes heureux, comment situez-vous sur une échelle de 1-10, etc., et comparer entre les pays, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Il y a d'autres dimensions, mais ça qui ramène un petit peu au climat. Il y a les biens marchands et les biens, le capital naturel. Qu'est-ce que dit la théorie économique là-dessus? Comment faut-il réfléchir? Quelle est la nature du problème? Et qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas?
Le fond du problème climatique est qu'il est difficile de décrire une planète Terre sur laquelle la température moyenne serait de 5 degrés supérieure à la température moyenne du 19e siècle. On pourrait penser naïvement que cette différence n'est pas si grande, mais ce serait une erreur majeure d'appréciation. À nouveau, la comparaison avec la situation symétrique, la fin de l'âge glaciaire, suggère des bouleversements d'une ampleur que l'on peine à imaginer et à laquelle l'homme n'a jamais été confronté auparavant. Le changement climatique est un problème qui met en cause la responsabilité de notre espèce. Il est d'origine anthropique, comme disent joliment les climatologues. Et c'est un problème d'une gravité exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'activité des hommes et leur négligence à prendre au sérieux les conséquences de leur activité menacent l'intégrité du vaisseau spatial Terre sur lequel nous sommes tous embarqués, ce qui n'est pas rien. Roger Guénéry, Deux économistes face aux enjeux climatiques, paru aux éditions Le Pommier. Vous ouvrez votre leçon inaugurale, Roger Guénéry, en écrivant, je cite, « Le public prête aux économistes un pouvoir d'influence, admiré ou jalousé, vanté ou suspecté, mais un pouvoir d'influence dont la réalité n'est pas pleinement établie. » Alors, les économistes ont-ils une influence sur les politiques économiques? Et s'ils en ont une, de quel ordre est-elle?
Bien sûr que les économistes ont une influence sur les politiques économiques, qu'on s'en réjouisse ou on le déplore. Non, il est bien évident qu'on produit du savoir économique. Le savoir économique, c'est un discours sur le monde.
Hein. Donc, bien sûr.
Et ce discours sur le monde, ça vous donne des idées sur ce qu'il faut faire dans ce monde. Donc évidemment, les politiques économiques, elles sont ancrées dans un certain type de compréhension du monde. Parfois, dans évidemment, les politiques économiques, il y a des gens qui gagnent, des gens qui perdent. Donc, dans le soutien apporté aux unes et aux autres, il y a évidemment des intérêts dans les politiques économiques. C'est tout à fait clair. L'État est en sorte un médiateur de ces intérêts. Parfois, il le fait bien, parfois, il le fait pas bien. Mais c'est inévitable que les économistes aient une influence sur les politiques économiques. Alors, est-ce qu'ils ont une bonne influence? Alors, à nouveau, ça dépend des cas. Par exemple, il est clair que nos théories, alors là, on revient un petit peu à la crise, donnaient une vision trop optimiste des marchés financiers. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait des gens méchants qui voulaient faire des théories qui soient favorables aux financiers. C'est parce que un certain nombre de gens, la vision dominante des marchés financiers était optimiste. Trop optimiste par rapport à ce qui se passait. Donc il y avait une erreur d'analyse, et cette erreur d'analyse a des conséquences sur la politique économique. Elle a été à l'arrière-plan de la régulation, de la dérégulation. Une des hypothèses, c'est efficient market hypothesis, l'hypothèse des marchés efficaces, qui dominait un peu la finance. Et évidemment, une responsabilité, à mon sens, on trouve des gens qui ne seront pas d'accord, une responsabilité importante dans les dérèglements qui se sont produits à partir de 2008.
C'est une idée qui a triomphé.
C'est une idée qui avait plus ou moins triomphé. Alors, j'étais un jour à Chicago avec quelqu'un qui me disait... c'est vous, économiste, qui êtes responsable de la crise. Alors, j'ai dit, mais non, écoutez, vous nous faites trop d'honneur, etc. Il m'a dit, mais si, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la finance et qui était en principe proche des gens qui soutenaient l'hypothèse d'efficacité des marchés, parce que Chicago était le grand centre là-bas. Il me dit, si, parce qu'avec votre hypothèse du marché, de l'efficacité informationnelle des marchés, vous avez donné à ce milieu qui est déjà... complètement irresponsable, un sentiment de liberté. Et vous les avez incités à prendre des risques considérables, etc. Je dis, bon, écoutez, l'efficacité du marché, c'est dans le débat théorique, il y a des gens qui le disent, et je me dis, alors, pourquoi ? Vous avez écrit un article où on dit du mal de l'hypothèse d'efficacité informationnelle qui a été publiée dans une bonne revue. Je dis oui, je crois. Il m'a dit, alors dans ce cas, vous êtes exceptionnel, n'en parlons plus. Ça me donne une petite idée du rôle que peuvent avoir les économistes. Ce monsieur pensait qu'on avait des rôles importants et que, effectivement, nos idées...
Vous étiez prescripteur.
Cet entretien avec Roger Guénéry avait été enregistré à la fin de l'année 2012. Nous vous proposons d'écouter maintenant l'introduction du cours qu'il a donné en 2011-2012, intitulé « Turbulence dans l'économie ». Il y traite en effet d'une question très brûlante d'actualité. Qu'est-ce qu'une crise ?
Je vous propose ma propre vision de ce qu'est une crise. D'abord, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le dysfonctionnement d'une économie décentralisée. Alors, qu'est-ce que c'est une économie décentralisée ? C'est les économies dans lesquelles on vit, c'est-à-dire dans lesquelles les actions économiques sont prises par des millions, voire des centaines de millions, voire enfin des millions d'agents, qui sont indépendants et qui se déterminent selon leurs objectifs propres. Bien entendu, c'est là, ce que je décris, c'est ce qu'on appelle généralement des économies de marché, dans lesquelles il n'y a pas de décision centrale. Évidemment, les économies de marché sont associées historiquement au capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas seulement des économies de marché, c'est aussi quelque chose qui est lié à la manière dont fonctionne le système financier, à la manière dont fonctionnent les entreprises. Et une crise, naturellement, c'est associé au capitalisme. Mais évidemment, si vous êtes dans un monde qui est régi par le Gosplan, il n'y a pas de crise. Enfin, il ne devrait pas y en avoir, en tout cas, sauf si le Gosplan fonctionne très mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres inconvénients, mais évidemment, il n'y a pas des choses comme une crise. Alors, quels sont les mécanismes de synchronisation dans les économies décentralisées dans lesquelles on vit ? Eh bien, d'abord, le premier, c'est l'ajustement des prix. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des marchés. Sur ces marchés, il y a des ajustements de prix. La question de l'explication de ces ajustements de prix est une question difficile. J'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes. Mais c'est évidemment une question qui reste à l'arrière-plan. Et il y a des ajustements de prix, dans un premier temps, au comptant, sur les marchés au comptant. Mais il y a en même temps, dans les économies de marché, ce que j'appellerais un ajustement des attentes. Puisque ce que vous faites aujourd'hui, comme consommateur, épargnant, etc., dépend de l'idée que vous vous faites de demain. Ce que fait une entreprise aujourd'hui dépend encore plus de l'idée de ce qui va se passer demain. Et cette coordination des attentes, c'est ce qu'on appelle en langage savant la coordination des anticipations. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'une crise ? C'est une rupture brutale du chemin suivi par l'économie et d'une image collective de l'avenir qui paraissait antérieurement solide. Donc il y a rupture des attentes associées à la crise. Alors il y a évidemment des dysfonctionnements du mécanisme de prix. Tout ça va de pair, naturellement. Donc, ceci étant dit, il y a évidemment toute une variété de crises qui vont de la crise économique à la crise financière, de la crise sectorielle à la crise générale. Et il y a des crises qui touchent un pays, des crises qui touchent le monde, etc. Donc ça, là-dessus, c'est ces remarques. Alors pour le plaisir, je vais évoquer quelques crises antérieures. C'est pas nouveau, les crises. Alors je ne rentre pas à l'Empire romain, je suppose qu'on en trouverait, mais on a moins de documentation là-dessus. Une des crises connues datant cette fois du XVIIe siècle est ce qu'on appelle la manie des tulipes en Hollande. C'est une époque, donc vers 1630, où on constate un engouement pour la tulipe, que l'on voit aussi bien dans les œuvres des peintres. Et en fait, la culture de la tulipe devient une activité économique significative, en particulier dans les grandes villes de Hollande, comme Amsterdam ou à la périphérie. Et il y a une activité commerciale également significative. Et en fait, de 1634 à 1637, on assiste à une montée progressive des prix des oignons de tulipes. Alors évidemment, dans les tulipes, il y a beaucoup de variétés de tulipes. Ce qui monte, c'est des oignons, c'est des tulipes rares. C'est des tulipes qu'on pourra montrer à ses voisins qui sont couronnées dans des expositions, etc. On voit aussi s'affiner les instruments. Par exemple, les gens se mettent à vendre ou acheter des tulipes à terme. Des tulipes qui n'existent pas. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Et par exemple, en 1637, alors exemple que l'on donne habituellement, c'est qu'on a vendu un oignon au prix de 2 maisons, ou à peu près de 5 années de revenus d'un artisan normal. En février 1637, le cours s'effondre, et c'est la fin de ce qu'on appelle le commerce du vent. Et donc, c'est un exemple d'une bulle spéculative. Alors, quand je raconte cette histoire, il ne faut pas croire que je résume évidemment beaucoup d'informations qui ont été obtenues sur cette histoire, mais cette histoire n'est pas nécessairement une histoire sur laquelle il y a Unanimité sur l'interprétation. On m'a prêté justement avant ce cours un livre qui donne une histoire de la sociologie de l'histoire des tulipes, dans lequel l'auteur est tout à fait donne des opinions tout à fait différentes de celles que j'avais vues dans un ouvrage précédent sur le même sujet. Donc je me garderai de trancher. C'est simplement pour dire que ces épisodes anciens ne sont pas nécessairement des épisodes sur lesquels il y a consensus. Alors, au XVIIIe siècle, j'évoque une deuxième bulle, donc une bulle spéculative, ce mot va revenir un certain nombre de fois, qui est la bulle des mers du Sud, the South Sea Company Bubble. Alors, la South Sea Company a été créée à Londres en 1711, et en fait, elle avait comme fonction de gérer la dette britannique, et grosso modo, la manière dont ça fonctionnait, si j'ai bien compris, c'est que elle rachetait la dette aux particuliers contre des actions de la compagnie. Et le fait que la dette rachetée lui valait une perpétuité à 6% d'intérêt donnée par le Trésor britannique. Et ce qui rendait la possession d'actions a priori désirable était le fait que cette compagnie s'était vue donner l'exclusivité du commerce avec l'Amérique latine. C'est pour ça qu'elle s'appelle South Sea, la mer du Sud, en fait, c'est l'Amérique latine, enfin, c'est les mers d'Amérique latine. Et donc, il y avait le sentiment qu'elle allait faire des profits tout à fait considérables. Et le prix de l'action de la... Il y a eu plusieurs émissions, il y a toute une histoire compliquée, mais le prix a augmenté régulièrement. Il y a eu un cours stratosphérique en 1720-1721, et effondrement de ce qui va être considéré ensuite comme une bulle, puisqu'elle s'effondre, en 1721. Alors parmi les perdants, il y a un qui est assez célèbre, qui s'appelle Isaac Newton, qui aurait perdu 20 000 livres. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais apparemment c'était beaucoup. Et il a déclaré, en tout cas on l'a fait déclarer, « Je peux prévoir le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes ». Alors, une autre bulle sur laquelle on viendra aussi, c'est la bulle Internet. La bulle Internet qui part de 1998, qui est liée à toutes les valeurs boursières, en général de jeunes, associées à des jeunes pousses, à du capital risque. Et qui part de 98 et qui s'effondre vers la fin de 2000. Alors, vous voyez, il y a plusieurs graphiques. Le premier, c'est l'indice boursier standard, le Standard & Poor's, qui reflète l'ensemble des valeurs boursières aux États-Unis. Il y a celui du Nasdaq, dans lequel il y a beaucoup de compagnies type jeunes pousses, capital risque. Et ensuite, il y a l'indice Internet lui-même, qui est un sous-indice. Et vous voyez à quel point il y a eu un parcours chahuté, puisqu'on part à peu près de 100, on va près jusqu'à 1000. Donc ça veut dire que le cours a été multiplié par 10 en 2-3 ans. Et puis, c'est à nouveau effondré assez rapidement vers l'année 2000. Donc voilà, ça c'est une bulle. C'est une des bulles les plus récentes, avec celle dont je vais parler maintenant, qui est la bulle immobilière qui a justement déclenché la crise financière dont on va parler maintenant. Alors oui, pardon, avant de parler de la bulle immobilière, j'ai oublié, alors il faut... last but not least, j'ai oublié 1929. Alors là, 1929-2008, est-ce que ce sont deux crises jumelles? Je mets un point d'interrogation, j'essaierai d'éclairer, donner une réponse à ça. Qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis? Bien, entre 1921 et 1929, il y a eu une période de boom économique, en particulier de hausse de la production industrielle de 50%. Et une hausse, alors concomitante, mais beaucoup plus forte de la bourse, de 300%. À nouveau, comme pour la... Je note le cas échéant, on essaie d'en trouver des indices comme ça. On peut noter qu'il s'était mis en place, un peu avant 1929, un nouveau système d'achat à crédit d'action. Comme pour les tulipes, il y avait eu des petits changements institutionnels. Est-ce qu'ils ont joué un rôle significatif dans l'histoire? C'est une autre affaire, mais ça a été souvent noté. Et il y a eu un crack. Alors ce crack a été contenu le jeudi noir, Mais trois jours après, le 28 octobre, c'était le lundi noir, la bourse a tombé de 13%, et puis le mardi noir, elle a encore perdu 12%. Alors là, il y a vraiment, c'est vraiment un effondrement des cours boursiers. Et cette baisse se poursuivra de 1930 à 1932. Elle va conduire à des pertes considérables, à des faillites bancaires, et elle a déclenché une crise mondiale. Ça, 1929. Alors 2008, on est passé de la crise des subprimes à la dépression. A priori, 2008, c'est une crise locale. C'est une bulle immobilière aux États-Unis et son retournement. Alors la bulle immobilière est associée au fait qu'on a mis en place, s'est développé un système de crédit hypothécaire plus particulièrement favorable et qui a nourri une hausse des prix de l'immobilier et qu'il y a eu retournement donc vers fin 2006, etc. Ce qui s'est passé ensuite, malgré tout, c'est que cette crise a conduit a été propagée dans le système mondial. En 2007, on a sauvé Northern Rock en Grande-Bretagne, et il y a eu, alors c'est ça qui a marqué vraiment le tempo de la crise, il y a eu la faillite de Lehman Brothers en 2008, cette fois. Donc. Et il y a eu ensuite donc une transmission, alors à nouveau c'est une crise, au début une crise immobilière, hein, ça se propage au système financier, ça se propage à l'économie réelle. Donc il y a eu une transmission synchronisée et rapide à l'économie mondiale. Le problème, c'est que c'est un petit incendie qui aurait pu être circonscrit. Il y a des évaluations différentes du montant des pertes associées à la crise au subprime, stricto sensu. Hein, ça va de 300 milliards. J'ai lu 500 milliards. Il y avait une étude du FMI qui disait 500 milliards. Mais il faut bien voir que c'est à peine le quart des pertes qu'il y a eu en 2000 quand la bulle Internet, aux États-Unis, quand la bulle Internet a éclaté. Hein, et ces pertes se sont prolongées pendant plusieurs années. Donc c'est pas grand-chose d'une certaine manière. C'était un petit incendie, un feu de forêt, qui s'est transformé en un tout petit feu de forêt, en immense feu de forêt. Alors pourquoi ? Ça, ça fait partie des choses que je continue à trouver relativement mystérieuses et qui, là, posent vraiment des questions de théorie économique intéressantes. Alors, premièrement, c'est que les crédits subprime titrisés, donc je dis saucissonnés, si vous voulez, hein, sont sortis du bilan et se sont trouvés partout dans le monde. Hein. Tout le monde avait des crédits subprime, les banques allemandes, etc. Et il s'est passé quelque chose, on est évidemment dans une économie mondialisée, de finances mondialisées, avec une forte imbrication des établissements. Et donc, il y a une sorte de panique généralisée, c'est-à-dire une perte de confiance dans les voisins liée au fait qu'ils peut-être qu'ils détiennent des crédits subprime et que je ferais mieux de ne pas leur prêter, hein, dans lequel il se produit des effets qui peuvent être des effets dominos. Alors, on a sauvé Northern Rock, on n'a pas sauvé Lehman Brothers, c'est ce qu'on a eu raison de sauver Northern Rock, je suppose que mon ami Mervyn King avait bien réfléchi à la question, mais en tout cas, c'est une décision qui a paru raisonnable. Et puis, peu à peu, on est allé à l'effondrement du marché boursier, donc vente des actifs, baisse cumulative, etc.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir, Roger Guénéry, titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne de Pelchin. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec une conférence de Jesper Svenbro et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous!